VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 septembre 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommaire du journal. Concertation aujourd'hui à Bamako entre la mission de haut niveau de la CEDEAO et les autorités maliennes au sujet des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. 5 soldats et un civil ont été tués par des hommes armés. C'est dans le sud-est du Nigeria. Ouverture aujourd'hui à La Haye du procès de Félicien Kabuga, financier présumé du génocide rwandais en 1994. Ici aux États-Unis, l'ouragan Ian a causé des inondations catastrophiques et des coupures d'électricité généralisées. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Une mission de haut niveau de la CEDEAO est à Bamako, initialement prévue pour mardi dernier. Elle est conduite par les présidents ghanéens et gambiens pour rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet est au cœur des échanges. On y reviendra au cours de cette édition. Au Nigeria, des candidats à la présidence ont signé ce jeudi un engagement à garantir des élections pacifiques. L'accord a été signé en présence des diplomates, des chefs religieux, du chef de la police et de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, le principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar. La commission électorale promet de veiller à ce que les partis évitent tout propos susceptible de perturber la paix pendant les campagnes électorales qui ont démarré hier mercredi pour le scrutin prévu en février prochain. Toujours au Nigeria, 5 soldats et un civil ont été tués hier dans une embuscade dans le sud-est du pays. Les détails avec Claire Morin-Jibou.
Cette embuscade perpétrée par des hommes armés contre un véhicule militaire à Umunze, localité de l'État d'Anambra, n'a pas été revendiquée. La police a confirmé qu'une fusillade a eu lieu sans donner de bilan. Des policiers ont été déployés dans la zone, a déclaré Toshoku Ikenga, le porte-parole de la police locale. Les médias locaux affirment que 5 soldats dans un véhicule militaire ont été tués et un civil qui était à proximité est également mort. Cette attaque survient 3 semaines à peine après une autre embuscade visant le convoi d'un sénateur de l'opposition, Ifeanyi Ubah, qui avait fait 5 morts. Le président Muhammadu Buhari termine son 2e et dernier mandat. Il est très critiqué pour son incapacité à endiguer les violences dans le pays. D'ailleurs, la sécurité est l'un des principaux thèmes de la campagne qui a démarré hier pour les 18 candidats à la présidentielle de février prochain.
L'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga est jugé à La Haye à partir de ce jeudi. La justice internationale l'accuse d'avoir mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide de 1994. Le point avec Eric Manirakiza.
Aujourd'hui, âgé de 87 ans, Félicien Kabuga est jugé pour génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crime contre l'humanité. Il a joué un rôle clé dans le massacre ethnique de la minorité Tutsi, a estimé jeudi l'accusation à l'ouverture en son absence de son procès devant un tribunal des Nations Unies à La Haye. Arrêté en banlieue parisienne après 20 ans de cavale, il est accusé d'avoir participé à la création des milices Hutu Interahamwe. M. Kabuga était également un des dirigeants de la radio des Mille Collines qui propageait des discours d'incitation à la haine contre les Tutsis. Membre du parti présidentiel, le MRND, le Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement, il aurait créé pendant le génocide avec d'autres hommes d'affaires le Fonds de Défense Nationale dont il prend la tête. Selon le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Félicien Kabuga a organisé des réunions avec de nombreux hommes d'affaires en vue de collecter des fonds pour l'achat d'armes, y compris des machettes utilisées pendant les massacres qui ont fait plus de 800 000 morts en 1994 au Rwanda.
Et je le disais en titre, une mission de haut niveau de la CEDEAO s'est rendue à Bamako, initialement prévue pour mardi dernier. Elle est conduite par les présidents ghanéens et gambiens pour rencontrer le président de transition, le colonel Assimi Goïta. L'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet est au cœur des échanges. Le point avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Macky Sall du Sénégal et Fornia Simbé du Togo, qui devaient faire partie de la mission, n'ont pas fait le déplacement à Bamako. Ce sont les présidents du Ghana, Nana Akufo-Addo, et celui de la Gambie, Adama Barrow, qui ont été accueillis à l'aéroport Modibo Keïta par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les membres du gouvernement et les ambassadeurs accrédités au Mali. L'absence du président togolais, Fornia Simbé, pourtant médiateur dans l'affaire des 46 militaires, suscite beaucoup de commentaires. Avant leur arrivée, le premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, avait mis en garde la CEDEAO contre toute immixtion dans ce dossier. Malgré tout, la CEDEAO, lors de son dernier sommet tenu à marge du 70e Conseil des Nations Unies, a pris la résolution d'envoyer une délégation en vue de trouver une solution à cette question qui pollue les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pendant plus de deux heures de huis clos, Assimi Goïta et ses homologues de la Gambie et du Ghana ont passé plus de deux heures de huis clos à échanger autour de la question. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Au Maroc, un membre présumé du groupe État islamique soupçonné d'être impliqué dans un projet terroriste a été arrêté ce jeudi par la police marocaine avec la coopération des renseignements américains. L'homme âgé de 29 ans a été interpellé à Casablanca par des agents de la Direction générale de surveillance du territoire. Il a été placé en garde à vue.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les régions côtières du sud-ouest de la Floride ont été pour la plupart plongées dans le noir après le passage dévastateur de l'ouragan Ian d'une rare intensité qui a provoqué des inondations. Quelque 3200 membres de la garde nationale ont été appelés et 1800 autres sont en route. Les précisions de John Lindon.
Plus de 2 millions de foyers étaient privés d'électricité ce matin en Floride par le passage de l'ouragan, selon un site spécialisé dans le recensement des coupures d'électricité. Ian devrait toucher plusieurs millions de personnes en Floride, mais aussi dans les États de la Géorgie et de la Caroline du Sud. Environ 2,5 millions de personnes ont reçu un ordre d'évacuation obligatoire dans une douzaine de comtés en Floride, et une évacuation volontaire recommandée dans d'autres. Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, a affirmé mercredi soir qu'il s'agirait probablement d'un des cinq plus forts ouragans ayant jamais frappé son État. Avec des vents allant jusqu'à 240 km/h, l'ouragan Ian a touché terre hier soir le long de la côte de Cayo Costa dans le sud-ouest. La directrice de la FEMA, l'agence fédérale chargée de la prise en charge des catastrophes naturelles, a affirmé que Ian sera toujours une tempête très dangereuse dans les jours à venir.
Vladimir Poutine va présider demain au Kremlin une cérémonie de signature du rattachement à la Russie de quatre régions ukrainiennes. Le président russe prononcera aussi un discours qualifié de majeur et recevra les chefs nommés par Moscou des administrations des régions concernées, a précisé le Kremlin. Cette intégration portera notamment sur les provinces de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia et Kherson dans l'est et le sud du pays. Une quatrième fuite a été révélée aujourd'hui sur les gazoducs Nord Stream en Baltique, en mer Baltique, visée selon l'OTAN par des actes de sabotage irresponsables. Les dégâts provoqués sur ces installations stratégiques entre la Russie et l'Allemagne sur fond de conflits en Ukraine et de tensions entre la Russie et les Occidentaux doivent être au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain vendredi à New York, réclamée mercredi par la Russie. Les deux grands favoris à la présidentielle au Brésil, le président sortant Jair Bolsonaro et l'ex-chef d'État Lula da Silva, se retrouvent ce soir à la télévision pour un débat très attendu. À trois jours du premier tour, ce débat est le dernier et verra s'affronter sept candidats sur les 11 qui sont déclarés. Rappelons qu'au Brésil, le vote est obligatoire pour tous les citoyens. La vice-présidente américaine Kamala Harris a achevé ce jeudi une visite en Corée du Sud, précédée et suivie de tirs de missiles nord-coréens. L'armée sud-coréenne a fait état de deux tirs de missiles balistiques de courte portée tirés peu après le départ de la responsable américaine. Madame Harris a visité aujourd'hui la frontière où elle a dit que l'engagement des États-Unis pour la défense de la Corée du Sud est inébranlable. Et puis, la reine Elisabeth II est morte de vieillesse le 8 septembre à l'âge de 96 ans, selon son certificat de décès rendu public aujourd'hui. La souveraine s'est éteinte dans sa résidence privée de Balmoral. Le certificat a été signé par la princesse Anne, la fille d'Elisabeth II, qui avait accompagné la souveraine pendant ces dernières heures. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Jibou.
La troisième édition du Forum du patronat ivoirien consacré à l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables en Afrique a eu lieu à Abidjan hier et aujourd'hui. Mamadou Sangafowa, le ministre ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie, a affirmé au patron ivoirien que des mesures d'incitation réglementaire ou fiscale vont être mises en place pour renforcer la transition énergétique. La croissance de l'économie sénégalaise devrait s'établir à 4,8% cette année, contre 6,3% en 2021, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale. Selon l'institution de Bretton Woods, l'économie sénégalaise continue de subir les conséquences du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. La Banque mondiale précise que les tensions géopolitiques et les pressions inflationnistes ont affecté les moteurs de la croissance et le pouvoir d'achat des ménages en 2022. Le PIB des États-Unis s'est contracté de 0,6% au deuxième trimestre 2022 selon le département du commerce américain. Le PIB américain s'était déjà contracté au premier trimestre de 2022 de 1,6%, ce qui correspond à la définition classique de la récession. Mais de nombreux experts affirment que ce n'est pas le cas en raison de la solidité du marché du travail.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Contrat rompu entre Youssef Belaïli et Brest.
Oui, c'est le club de l'Algérien qui en a fait l'annonce. Le contrat du joueur, qui avait été prolongé d'un an cet été, a été résilié à sa demande, a précisé le stade brestois. Arrivé en janvier à Brest, Youssef Belaïli a par moments été brillant sur le terrain, mais n'a jamais été à son aise en Bretagne. Youssef ressentait un mal-être au quotidien en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie, a expliqué le directeur sportif Grégory Lorenzi, rejetant des affaires d'ordre privé comme annoncé dans les médias locaux ces derniers jours. Selon ces médias, Belaïli a laissé pour 30 000 à 50 000 euros de dégâts dans la maison de location où il logeait la saison dernière et s'est illustré par une série de retards ainsi qu'un état de forme pas toujours au top. Parti la semaine dernière pour rejoindre la sélection algérienne, Belaïli ne reviendra donc pas à Brest.
Karim Benzema de retour à l'entraînement.
Absent des terrains depuis sa blessure à la cuisse droite début septembre, Benzema a fait son retour à l'entraînement mercredi avec le Real Madrid et se sent prêt à jouer dimanche en championnat. Le Real reçoit Osasuna pour le compte de la 7e journée de la Liga. Benzema avait dû sortir dès la 30e minute lors du match face au Celtic Glasgow le 6 septembre en Ligue des Champions. Le corps médical avait diagnostiqué une lésion au muscle semi-tendineux ainsi qu'une surcharge musculaire, tous deux au quadriceps de la jambe droite, avait alors indiqué son club. Sa reprise intervient à point nommé avant un mois d'octobre exigeant pour le club merengue, avec des rencontres en Ligue des Champions et le Classico en Liga contre le Barça le 16 octobre.
Basketball, le mondial féminin a désigné ses demi-finalistes.
En quart de finale ce jeudi, les États-Unis ont battu la Serbie 88 à 55. Porto Rico est tombé devant le Canada 60 à 79. La Chine a disposé de la France 85 à 71. Et l'Australie s'est imposée face à la Belgique 69 à 86. Pour la première fois depuis 28 ans donc, les demi-finales du mondial féminin de basket se disputeront sans l'Europe. Elles mettront aux prises demain vendredi à Sydney le Canada aux États-Unis dans un choc entre voisins avant Australie-Chine. Coïncidence ou non, c'est déjà l'Australie qui accueillait la compétition en 1994, lorsqu'aucune équipe du vieux continent n'était parvenue à atteindre le dernier carré. 28 ans plus tard, si le Canada a remplacé le Brésil, les trois autres participants sont les mêmes, à commencer par les États-Unis qui visent un quatrième titre de rang.
Page des sports VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
le monde.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les rescapés du génocide rwandais souhaitent que le procès de Félicien Kabuga à La Haye s'accélère pour déraciner la culture de l'impunité. Ils estiment aussi que la tenue de ce procès est une victoire de la justice. Les réactions à Kigali avec notre correspondant Jean Damascène Manishimwe.
L'ouverture du procès Félicien Kabuga est pour la plupart des rescapés du génocide synonyme de la fin de l'impunité pour les suspects génocidaires. Ils se déclarent par ailleurs impatients de voir Kabuga faire face à la justice après plus de 20 ans de cavale. Comme l'indique Jide Muranga, président de Ibuka, c'est l'association des rescapés du génocide au Rwanda.
On accueille ce procès très impatiemment parce que ça faisait longtemps, vous savez. Il a fui la justice pendant 25 ans. Il a utilisé sa fortune parce que c'était un homme riche ici au Rwanda. On va avoir quelques informations qui pourront nous aider peut-être dans d'autres procès. Donc ça va vraiment nous aider à poursuivre ces présumés génocidaires.
Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, souhaitait pour sa part que Félicien Kabuga accepte de témoigner et de donner plus d'informations sur le génocide des Tutsis au Rwanda.
J'espère que ce procès permettra d'en connaître un peu plus sur la façon dont il est arrivé en France et éventuellement de quel soutien il a pu bénéficier. Mais ce procès pour nous est un procès extrêmement important parce que c'est lui qui est considéré comme le grand financier du génocide perpétré contre les Tutsis. Je suis un peu dans l'expectative, si vous voulez. Je ne suis pas optimiste au point de dire il va nous faire de grandes révélations. Maintenant, j'espère qu'il acceptera de parler et qu'il répondra aux questions qui lui seront posées, en particulier sur le rôle qu'il a joué dans ce génocide.
Même s'il a fallu attendre 28 ans pour voir l'homme d'affaires comparaître pour génocide, ce procès est pour certains perçu comme une victoire de la justice. C'est le point de vue d'Alphonse Mourefo, il est spécialiste du droit international.
Ce
procès démontre encore une fois la persévérance de la justice, étant donné qu'il a passé plus d'une vingtaine d'années en cavale. L'ouverture de ce procès est une victoire pour la justice et la lutte contre la culture de l'impunité. Félicien Kabuga, 87 ans, qui était un grand homme d'affaires au Rwanda jusqu'en 1994, est originaire du nord du Rwanda, comme nombreux d'autres dignitaires de l'ancien régime. Il doit répondre des crimes de génocide, d'incitation directe et publique à commettre le génocide, d'entente en vue de commettre le génocide, ainsi que les crimes contre l'humanité, que sont l'extermination, l'assassinat et les persécutions, tous commis pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les familles de réfugiés rwandais vivant à Goma réclament justice pour leurs proches. Selon elles, beaucoup de réfugiés sont à Mounzenze, la prison centrale de la ville, et n'ont pas accès à une représentation légale. Les détails avec Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Certains sont jetés en prison et n'ont personne pour plaider leur cause. Leurs familles disent ne pas pouvoir leur rendre visite, soit par manque de moyens, soit à cause des tracasseries financières que leur imposent les forces de l'ordre à la porte de la prison. Ouase Jeanne, une réfugiée rwandaise dont le beau-frère est à la prison des Goma depuis plus de 6 mois, témoigne.
Un membre de ma famille est en prison. Mon beau-frère, il a été arrêté à Kiroli-Roué. Il s'y était rendu pour un travail consistant à faire paître les vaches afin de subvenir à ses besoins, comme c'est le cas pour tous les réfugiés. Ils l'ont accusé d'avoir violé l'enfant de son patron. Et pour l'instant, il est dans la prison de Mounzenze. Il n'a personne pour plaider sa cause.
Le collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, COJESKI, une organisation de la société civile, œuvre dans la défense des droits des réfugiés. Ce collectif dit avoir identifié au moins 37 réfugiés dans la prison de Mounzenze. Jackson Kulihoshi est membre de cette association.
Dès le départ, ils ne peuvent pas être écoutés. Ils sont dès le départ soupçonnés, surtout ceux-là qui viennent du Rwanda. Quand vous vous identifiez comme un Rwandais, déjà vous avez déjà perdu la caisse. Que vous soyez victime ou pas, déjà on vous est soupçonné d'être peut-être une agence secrète du Rwanda. Peut-être déjà on vous colle que vous êtes un terroriste, que vous êtes un rebelle, que vous êtes un FDLR. Il y a déjà des soupçons dès le départ avant même qu'on vous écoute.
Les réfugiés sont donc les premières victimes des accusations de soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Ils deviennent suspects et vivent une situation précaire. Emmanuel Mugabe, l'un de ces réfugiés, affirme qu'ils vivent avec la peur au ventre.
Je suis un réfugié en provenance du Rwanda depuis l'année 95. La situation des réfugiés, surtout en ville de Goma, est déplorable. Il y en a qui sont rapatriés au Rwanda, les autres sont incarcérés et meurent en prison, les autres sont tracassés. Tu peux voir quelqu'un venir ravir tes biens parce que tu es réfugié, parce qu'apparemment, les réfugiés n'ont le droit de vivre ici au Congo.
Cette façon d'agir est une entorse aux dispositions légales, national et international, fait remarquer le juriste Évariste Iragui.
On ne peut pas reconnaître l'assistance judiciaire à cette façon, cette situation-là. C'est une violation manifeste des droits qui sont reconnus par les instruments juridiques au niveau international, régional, au niveau interne démocratique du Congo.
Quand la méfiance et la mésattente s'installent entre le Rwanda et la RDC, les premières victimes sont ceux qui auront fui leur pays pour se réfugier chez l'autre. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
La secrétaire générale de la francophonie Louise Mushikiwabo est candidate à sa propre succession à la tête de l'OIF qu'elle dirige depuis 2019. En visite dans les studios de la VOA à Washington, l'ancienne chef de la diplomatie rwandaise promet de poursuivre les réformes engagées pour moderniser cette organisation. Le 18e sommet de la francophonie est prévu fin novembre en Tunisie. Au micro d'Abdourahman Dia, Louise Mushikiwabo a dit que l'adhésion de pays francophones comme le Togo et le Gabon au Commonwealth doit plutôt être vue comme une opportunité et non comme une menace de l'espace francophone. On écoute un extrait de cet entretien.
Nous sommes une organisation qui a aujourd'hui 52 ans. Certaines manières de faire, certaines habitudes doivent être renouvelées. Et ce n'est pas facile, mais nous avons pu, dans les presque 4 ans passés, faire bouger les choses, par exemple, en bon recentrage de nos programmes qui étaient trop nombreux et pas exécutables. Par exemple, de nous focaliser sur les outils numériques qui sont très importants aujourd'hui. Le numérique n'est plus en luxe, c'est un moyen de travail, c'est un outil, c'est un mode de vie. Nous avons pu, en interne, dans la gestion même de l'organisation, revoir les règles sur les financements, la finance de l'institution.
Il y a eu des décisions un peu difficiles avec des licenciements.
Il y a eu des décisions difficiles comme cela se doit quand on fait des changements majeurs. Il y a eu des postes qui ont été supprimés. Et donc, automatiquement, les personnes qui étaient assignées à ces postes ont dû partir avec un, je dois le dire, avec un bon package, comme on dit en mauvais français.
Quand on voit des pays comme le Gabon, le Togo, qui suivent un peu l'exemple du Rwanda pour intégrer le Commonwealth, comment est-ce que l'OIF doit interpréter tout cela? Un affaiblissement ou plutôt une opportunité?
Alors, une grande opportunité, la francophonie que j'appelle la francophonie de l'avenir, puisque moi j'ai été élue par les chefs d'État donc à Erevan en 2018 pour repenser la francophonie. C'est une francophonie qui n'est pas sur la suprématie de la langue française, mais plutôt une francophonie qui est sur la cohabitation, l'enrichissement des langues, à commencer par nos langues nationales maternelles. Et aujourd'hui, beaucoup de francophones, à commencer par moi-même, secrétaire générale de l'organisation, nous sommes des francophones décomplexés.
Si vous êtes confirmé pour un deuxième mandat, qu'est-ce qui va être votre priorité?
Alors, nous sommes en pleine transformation. Au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons encore du travail à faire sur la modernisation des ressources humaines. Je dirais la modernisation, la recherche de plus d'efficacité au niveau des ressources humaines, plus de recentrage de nos activités sur des projets phares importants, mais aussi au-delà de ce recentrage et de cette recherche d'efficacité, un vrai suivi du concret, de l'impact sur les citoyens francophones.
Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Un ménage américain sur 10 est en situation d'insécurité alimentaire et cette situation dure depuis des décennies. Mercredi, lors de la première conférence de ce type en 50 ans, la Maison-Blanche a réuni des experts pour discuter de la manière dont le plus grand fournisseur mondial d'aide alimentaire peut mieux faire pour nourrir les siens. Le reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Anita Powell, le récit est de Yacouba Ouedraogo.
La faim peut être difficile à imaginer dans le pays le plus riche du monde. Mais en ce moment, 9 millions d'enfants américains ont faim, comme l'a déclaré le président Joe Biden lors de l'ouverture de la première conférence en 50 ans sur la faim et la nutrition à la Maison-Blanche.
Pas plus tard que la semaine dernière aux Nations Unies, j'ai parlé des engagements que nous prenons pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le monde. Parce que dans chaque pays du monde et chaque état de ce pays, peu importe ce qui nous divise, si un parent ne peut pas nourrir un enfant, il n'y a rien d'autre qui compte pour ce parent. Si vous regardez votre enfant et que vous ne pouvez pas le nourrir, qu'est-ce qui compte d'autre?
La faim est un phénomène mondial. Et les États-Unis ne sont pas les plus durement touchés. Le dernier indice de sécurité alimentaire classe les États-Unis au 13e rang mondial. La Finlande, en revanche, arrive en tête, tandis que la Syrie et Haïti sont au dernier rang. La conférence de Biden fixe l'objectif ambitieux de mettre un terme à la faim et réduire les maladies liées à l'alimentation aux États-Unis d'ici 2030. Mercredi, il a annoncé 8 milliards de dollars d'engagement des secteurs publics et privés. Il prévoit aussi d'accroître l'accès aux repas scolaires gratuits et d'étendre les aides alimentaires aux enfants et aux familles. Le financement du Congrès est loin d'être assuré. Les républicains privilégient généralement les moyens non gouvernementaux pour traiter les maux de la société. Noreen Springstead, directrice exécutive de Why Hunger, une organisation basée à New York, estime que les États-Unis peuvent mieux faire.
Je dirais que c'est un objectif très ambitieux d'éliminer la faim d'ici 2030. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement fédéral peut faire, mais cela doit vraiment être un effort conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement de l'État, du gouvernement local, des entreprises, de la philanthropie et de toute la société civile pour y parvenir.
Les défis traversent les frontières. L'insécurité alimentaire a augmenté pendant la pandémie et après l'invasion russe de l'Ukraine. Daniel Nirenberg dirige une organisation à but non lucratif appelée Food Tank.
La pandémie et la guerre contre l'Ukraine nous ont montré que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont très fragiles et que si nous en sommes totalement dépendants, nous nous mettons en danger. Et ce dont nous avons besoin, c'est plus d'investissements de la part des gouvernements et du secteur privé et des chaînes d'approvisionnement régionales et locales.
Pour Sprinted, directrice exécutive de Why Hunger, rendre la nourriture moins chère n'est qu'une partie du défi.
La justice économique doit vraiment être un pilier ici. Il faut augmenter le salaire minimum pour en faire un salaire décent et y veiller dans tout le pays, car cela peut varier selon l'endroit où vous vivez. C'est la première chose à faire.
Pendant une journée, Washington s'est concentré sur la faim au moment où les prix des denrées alimentaires montent en flèche.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.